Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h ce soir, mixité sociale. Pourquoi l'école devrait-elle être exemplaire ? Le privé, meilleur élève que le public en matière de mixité sociale à l'école. C'est le constat surprenant qui barrait la une du journal La Croix mardi dernier. Le quotidien a publié les résultats d'une étude menée par un chercheur de l'EDEC, une école de commerce, d'où il résulte que, je cite, « les collèges privés sont surreprésentés au sein des collèges les plus performants en termes de mixité sociale ». Alors, constat surprenant, encore que les établissements publics, soumis à la sectorisation, n'ont pas le choix. Ils ne font que refléter, voire amplifier l'absence de diversité sociale de leur environnement. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à parler de ghetto scolaire. Alors, au-delà de ce match public-privé, cette question de la mixité sociale traverse depuis quelques années la réflexion sur le rôle que doit jouer l'école. Doit-elle refléter au plus près la diversité de la population française ? Et à supposer que cela soit possible, en quoi cet objectif est-il pertinent du point de vue de la réussite scolaire ? Mixité sociale, pourquoi l'école devrait-elle être exemplaire ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir Frédéric Rollet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire générale du SNES-FSU, le syndicat national des enseignants du second degré, collèges et lycées, principal syndicat de ce secteur. Pour discuter avec vous, Pascal Balmand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique qui représente 18%, si mes chiffres sont exacts, des élèves français au sein de 9000 établissements. Et puis notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Il s'agit de Marie Durubella, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous travaillez en particulier sur les inégalités à l'école. Vous êtes membre du comité qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour accompagner une expérimentation de mixité sociale à la rentrée prochaine. Nous allons avoir l'occasion d'en discuter. Vous avez publié l'an dernier au Seuil avec François Dubé 10 propositions pour changer l'école. Alors je voudrais qu'on commence avec vous, Marie Durubella, faire un petit diagnostic du niveau de mixité sociale ou peut-être du niveau de déficit de mixité sociale aujourd'hui au sein de l'école française. Est-ce qu'on peut dire que c'est une véritable problématique en 2016 ?
Une problématique certainement pas, parce que ça serait un mauvais usage du terme. Non, il y a un problème dans certaines régions. Par définition, tout ce qui est ségrégation sociale et mixité sociale, ça varie beaucoup selon les contextes. Ce qui est certain, c'est que dans la région parisienne, et notamment à Paris intramuros, il y a un vrai problème. Et sur l'académie de Paris et de Créteil, par exemple, dans l'académie de Créteil, il y a des écoles où 80% des enfants ont un père ouvrier ou inactif, le plus souvent en chômage. Et puis, il y a des collèges à Paris où c'est 10%. Donc là, on a vraiment des collèges qui ne reflètent absolument pas le peuple français.
Est-ce qu'à contrario, Marie Durubella, il y a des régions qui sont plutôt, si ce n'est exemplaires, mais en tout cas, on va dire proches de la diversité sociale ?
Dans les villes moyennes, et notamment dans les villes moyennes où le secteur privé n'est pas trop important, on y reviendra sans doute, il peut y avoir beaucoup plus de mélange, ne serait-ce que parce que les parents n'ont pas le choix. Vous savez, les parents ne sont pas fous, hein, ils ne vont pas faire des kilomètres à leur enfant pour le mettre dans tel ou tel établissement. Donc il y a des villes où les situations sont plus mélangées. Et je pense que, pour revenir à votre question, mais on y reviendra plus longuement je pense, c'est effectivement un problème pour un pays qui consacre beaucoup de ressources public à l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on alloue tant de ressources publiques à l'éducation ? C'est bien pour former ensemble les jeunes du pays pendant la scolarité obligatoire, au moins. C'est vraiment, ça me paraît, une exigence évidente.
Alors évidemment, beaucoup de sujets sur lesquels nous allons revenir en effet, et notamment ces rapports entre le public et le privé qui ont une incidence ou pas justement sur le niveau de mixité sociale. Mais pour poursuivre ce tour de table sur ce diagnostic un petit peu général, est-ce que c'est d'abord un diagnostic que vous partagez, Frédéric Rollet ?
Oui, assez largement. C'est vrai que la situation parisienne est assez atypique. On sait que les trajectoires scolaires se construisent très très tôt pour aller dans certains bons lycées qui prépareront eux-mêmes aux grandes écoles, etc. En province, les choses sont plus complexes. On a, à l'inverse, malheureusement, des zones où on a des établissements qui sont tellement ghettoisés que ça produit évidemment des phénomènes d'évitement de la part de familles, y compris de familles populaires.
Pascal Balmand, sur certaines questions.
Oui, non, rien de particulier à ajouter. Je partage les constats et Peut-être pas les analyses, mais les constats, je les partage pleinement.
Alors le constat, y a un constat qui a été fait, qui est le produit d'une enquête que j'évoquais en introduction à cette émission, publiée il y a tout juste une semaine par le journal La Croix. C'est un chercheur, l'école de commerce LEDEC, Pierre Courtiou, qui a fait une étude sur, le niveau de mixité sociale dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé, en particulier au collège, et d'où il ressortirait que le privé fait plutôt mieux que le public. Pascal Balmant, est-ce que vous adhérez là aussi à ce diagnostic ?
Alors, je n'adhère pas à une logique de match ou de compétition pour savoir qui ferait le mieux ou qui ferait le moins bien. Je crois que les besoins sont tels que ce qui est nécessaire, c'est que tout le monde participe à l'effort de mixité. On y reviendra certainement. Une enquête peut toujours être contestée, elle l'a déjà été moins d'une semaine après sa publication par votre confrère de La Croix. Ce qui m'intéresse dans cette enquête de Pierre Courtiou, c'est qu'en partant de ce qu'il appelle l'indice d'entropie, c'est-à-dire la manière dont la population scolaire d'un collège, qu'il soit public ou qu'il soit privé, reflète plus ou moins fidèlement la diversité de la population globale de son bassin, eh bien, il montre que finalement, au-delà de leur extrême diversité, les établissements d'enseignement privé, pour moi l'enseignement catholique, ne sont pas conformes à l'image d'Épinal que parfois on se fait d'eux. C'est-à-dire que dans certaines régions, dans certaines zones, on a évoqué Marie du Rubella, a évoqué le cas de Paris intramuros, dans certaines régions, il y a bel et bien, dans le privé, mais aussi dans le public, des phénomènes d'entre-soi, qui sont ce qu'ils sont, qui sont des héritages d'une histoire. Mais dans d'autres régions, ça peut être le Nord-Pas-de-Calais, ça peut être l'Ouest de la France, etc. Notamment dans des régions où l'enseignement catholique est très présent et très représenté, eh bien là, la population qui l'accueille dans ces établissements est très exactement conforme à celle de son bassin, de son environnement socioculturel.
Frédéric Rollet, est-ce que vous avez été surprise par les résultats de cette étude ? Je rappelle, vous êtes secrétaire général du SNES. Le SNES FSU, c'est l'enseignement public.
Non, pas surprise, parce que tout dépend des biais qui sont introduits, évidemment, dans l'étude. Moi, je regarde d'abord les chiffres globaux. Hein, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'état de l'école. Sur-représentation des élèves et issus des CSP favorisés dans le privé, avec quand même un différentiel de plus de 20 points, 19,4, 39,4. Sous-représentation, évidemment, du coup, des élèves issus des CSP défavorisés. Donc, ensuite, on aura nuancé, mais évidemment, nous souhaitons qu'on ait véritablement une mixité sociale et scolaire qui irrigue l'ensemble des établissements.
Qu'ils soient du public ou du privé ?
Alors, il faudrait que le privé soit astreint aux mêmes contraintes et notamment la question de l'accueil de tous les élèves.
Alors, on va parler justement de ces contraintes. Et une des contraintes, d'ailleurs, c'est la sectorisation à laquelle sont soumis les établissements publics et pas les établissements privés. Marie Di Rubella, vous disiez finalement aussi cette mixité sociale, elle dépend aussi du maillage, on va dire, qui existe dans les régions ou dans les villes et du nombre d'établissements privés qui sont proposés. Ou pas. Est-ce que ça peut expliquer que dans certaines zones, le privé soit plutôt le bon élève, on va dire, en matière de mixité sociale ?
Comme l'a dit Monsieur Dallemant, il est évident que dans les académies où le privé accueille presque 40% des élèves, évidemment, ces élèves vont avoir un profil plus diversifié que dans les académies où il en accueille 10%. Ça, c'est clair. Hein. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas que l'origine sociale des élèves qui intervient. Il y a des enquêtes qui ont montré, notamment, je pense aux travaux de Fellouzi dans l'académie de Bordeaux, mais il y a aussi ceux de Pierre Merle, qu'il y avait aussi des phénomènes de ségrégation ethnique qui sont très importants. Et je ne connais pas l'étude que vous citez, j'avoue que je ne la connais pas encore. Et sans doute, il faudrait regarder exactement quel est le profit de ces élèves. Ils peuvent avoir le même profit en termes de profession des parents, mais il faut regarder aussi l'origine ethnique. Il faut regarder aussi, mais ça c'est très difficile, quelles sont les attitudes de ces parents. Aller vers le privé, c'est une démarche particulière de consommateur. C'est pas forcément péjoratif dans mon esprit, ça peut correspondre à des soucis éducatifs particuliers. Et donc il suffit pas que le milieu économique soit strictement le même pour qu'on ait véritablement des élèves qui vont être aussi, j'allais dire, faciles à gérer que dans le secteur public.
Une des explications qui est fournie par le journal La Croix, qui publie donc cette étude, c'est de dire que donc, ces résultats sont en partie liés au fait que les collèges publics sont soumis à une sectorisation et qu'ils sont donc davantage tributaires de la composition sociale de leur territoire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'un établissement qui n'est pas très bon en termes de mixité sociale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des enfants de patrons, de chefs d'entreprise, de cadres supérieurs, mais ça peut aussi vouloir dire à l'inverse, que ce sont des ghettos scolaires, comme le dit notamment, je crois, c'est la sociologue Nathalie Mons, Frédéric Rollet.
Oui, c'est vrai, bien que
le Tesco. Alors, Marie Durubala et Frédéric Rollet. Marie Durubala et Frédéric Rollet.
Non, mais évidemment, la sectorisation, par définition, est censée contraindre les parents. Mais on sait très bien qu'il existe des phénomènes de dérogation, ouvertes ou déguisées, de la part des parents les mieux informés. Et c'est justement dans les milieux les plus populaires qu'on peut avoir le sentiment qu'on est enfermé, qu'on est condamné, entre guillemets, à fréquenter le collège du quartier où on préférerait ne pas aller. Alors que certains peuvent aller soit vers le privé, mais aussi obtenir des dérogations plus ou moins facilement. C'est ça qui choque.
Frédéric Rollet.
Oui, non, par rapport à ce que vous disiez, il peut y avoir des phénomènes de concentration d'élèves dans un sens ou dans un autre du fait de la géographie urbaine dans certains quartiers. C'est compliqué d'avoir une véritable mixité sociale du fait simplement du type d'habitat et de bon, si vous regardez ce qu'écrit Éric Morin là, sur justement l'entre-soi dans les habitations, ça produit ce type de choses. C'est pour ça que nous demandions une réflexion sur la carte scolaire, y compris pas celle qui existait forcément précédemment, mais revoir aussi comment on peut éviter de laisser des établissements justement se ghettoiser, parce qu'il y a des endroits où c'est difficile d'injecter de la mixité sociale.
Est-ce que vous seriez favorable, vous Frédéric Rollet, au SNES, pour que l'enseignement privé soit soumis, peut-être pas exactement de la même manière que l'enseignement public à la carte scolaire, mais en tout cas il soit davantage justement pour favoriser cette mixité sociale?
Oui, je pense qu'on devrait avoir les mêmes impératifs à partir du moment où normalement on partage les mêmes objectifs d'éducation de tous les enfants de ce pays.
Ah oui, puisque Pascal Balmant, si l'objectif, il est bien aussi du côté de l'enseignement catholique de favoriser la mixité sociale, pour y arriver, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que les établissements dont vous avez la charge soient soumis aux mêmes obligations ?
Mixité sociale et scolaire. Je crois que vraiment il faut systématiquement accoler les deux concepts et les deux réalités. Il me semble qu'on peut très bien viser des objectifs communs et convergents sans pour autant emprunter exactement les mêmes chemins pour les atteindre. Et peut-être au contraire chercher par le dialogue une certaine forme de complémentarité utile pour tous. Nos établissements de l'enseignement catholique, de l'enseignement privé d'une manière générale, associé à l'État par contrat, ne peuvent pas être assujettis à une logique de carte scolaire. Au nom de la liberté de choix des familles, qui est un droit constitutionnel, et puis parce que il se caractérise par des spécificités éducatives, pastorales, pour nous, enseignement catholique, qui ne peuvent pas correspondre à l'attente, au choix, à la demande de toutes les familles, par définition. Donc, une logique d'inscription administrative, et en quelque sorte anonyme, ne peut pas fonctionner de manière satisfaisante pour nos établissements. Il faut donc, me semble-t-il, que nous nous associons aux politiques qui se développent, et c'est d'ailleurs le cas hein, dans les départements pilotes, que nous nous associons aux politiques qui se développent en termes d'accroissement ou d'approfondissement des mixités sociales et scolaires, mais à notre manière et pas dans une logique d'affectation et de carte scolaire.
Je veux surtout pas ranimer la guerre scolaire hein, ce soir, c'est vraiment pas le but de l'émission, mais je voudrais juste vous citer, puisque Marie Durubella citait Pierre Maire, qui est sociologue et spécialiste de questions de ségrégation scolaire, et qui, suite à la publication de cette fameuse étude, après j'arrêterai d'en parler, mais écrivait ceci sur le site du Café Pédagogique, « L'enseignement privé est un obstacle à la mixité sociale. Si le principe d'une école catholique ouverte aux pauvres et aux faibles est rappelé haut et fort, la réalité sociale de l'enseignement catholique est autre. Loin d'être un modèle de mixité sociale, les portes des collèges privés se ferment de plus en plus aux enfants défavorisés. » Pascal Balmant, comment vous répondez à ce genre de propos ?
Différents points. Premier point, rappeler, je l'ai dit, l'extrême diversité de l'enseignement catholique. D'ailleurs, l'étude de Pierre Courtioux, le chercheur de l'EDEC, souligne à juste titre cette grande diversité. Donc je crois que voilà, on peut pas aller à des raccourcis trop rapides ou trop abrupts. Deuxième point, rappeler que les établissements d'enseignement public peuvent eux aussi manifester et incarner des formes de ségrégation sociale en fonction de leur implantation et du type de quartier dans lesquels ils sont situés. Troisième point, le fait qu'il n'y ait pas de, enfin que nos établissements ne soient pas assujettis à la carte scolaire. C'est vrai que on peut considérer que ça constitue une sorte de bonus ou de prime aux stratégies d'évitement. En même temps, je voudrais souligner, alors c'est peut-être un petit peu paradoxal, mais je voudrais souligner que la présence de nos établissements dans un certain nombre de quartiers ou de zones, pas seulement les quartiers urbains, mais il faut aussi penser aux zones rurales très enclavées, dont on ne parle pas suffisamment, la présence de nos établissements constitue aussi un levier de brassage socio-urbain, au sens large du terme. Avant d'être secrétaire général de l'enseignement catholique, j'ai pendant 7 ans été directeur diocésain de l'enseignement catholique en Seine-Saint-Denis. Et je peux ici témoigner du fait que plusieurs élus, même sous la torture, je ne dirai pas leur nom, mais plusieurs élus d'étiquettes politiques extrêmement différentes, se sont adressés à moi en me demandant d'implanter, j'ai pas eu les moyens de le faire, mais de créer un établissement sur leur territoire communal au nom de stratégies de brassage social, pour le coup, entre guillemets, par le haut. Voilà. Donc, la présence de nos établissements, en ce sens qu'elle peut attirer et fidéliser les classes moyennes, ne constitue pas nécessairement un élément de brassage scolaire, mais constitue bien un élément de brassage social ou territorial.
Bon, j'ai tort peut-être ce soir, Marie Durubella, d'insister un peu trop sur justement cette rivalité, mais qui n'existe peut-être pas tant que ça, entre le public et le privé, du point de vue justement de l'exigence de mixité sociale.
Disons qu'on comprend pas très bien de l'extérieur hein, pourquoi le fait qu'il y ait une spécificité pédagogique éducative, pourquoi pas, hein, dans le secteur privé, serait lié à un public particulier. Tous les petits Français et toutes les familles françaises peuvent être intéressées par ce type de spécificité. Et donc, je vois pas pourquoi ça serait en lien avec un public qui reste particulier, et ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a quand même des expériences historiques récentes, hein, notamment celle de l'assouplissement, voire, on l'a annoncé un peu vite, de la suppression de la carte scolaire, qui ont montré que ce qui a suivi, c'est une accentuation du caractère ghettoisé, bon, le terme est un peu fort, hein, de certains établissements privés, par le haut, c'est-à-dire il y a des familles qui ont fui hein, certains établissements qui étaient trop populaires à leur goût et qui sont réfugiés, le terme là est exact, vers l'enseignement privé. Donc de fait, ça joue ce rôle-là, même si c'est pas dans sa nature, etc. Mais ça, c'est voilà, la réalité, elle est là.
Alors écoutez justement ce que disait le ministre de l'Éducation de l'époque au moment de la mise en place de cet assouplissement de la carte scolaire, Xavier Darcos. Nous sommes en mai 2007.
Est-ce qu'elle est juste la carte scolaire aujourd'hui? Franchement, est-ce que c'est normal qu'il la subisse et d'autres qui y échappent? Est-ce qu'il est normal que pour certains on puisse aller où on veut et d'autres on ne peut pas traverser la rue pour se faire affecter? C'est pas normal. Donc il ne s'agit pas de supprimer la carte scolaire parce qu'on voudrait subitement exercer comme ça une volonté brutale de réforme. C'est pour que des choses soient justes. L'école de la République, c'est une école qui donne les mêmes chances à tout le monde, où les règles du jeu sont claires. La carte scolaire, ce n'est pas une assignation à résidence. Il faut que ce soit un moyen souple pour obliger à la mixité scolaire.
Frédéric Rollet, cet assouplissement de la carte scolaire sur lequel est revenu l'actuel gouvernement, ça n'a pas eu l'effet escompté en termes de mixité sociale et plutôt l'effet inverse?
Ah, ça a eu l'effet inverse parce que ça, justement, les familles qui connaissent très bien les codes de l'école, qui savent quels sont les établissements et quelles sont les stratégies pour aller dans les établissements entre guillemets censés être les meilleurs, ont profité à plein, alors que les autres sont rester justement dans les établissements qui étaient celui de leur secteur, et on a au contraire souvent enfoncé dans leurs difficultés certains collèges. Donc ça a eu exactement l'effet inverse. L'idéologie de la liberté, c'est toujours, enfin la liberté quand elle est éclairée et quand on a les moyens de faire des choix, c'est autrement, on sait toujours à qui ça profite.
Alors pour la rentrée 2016, il y a des expérimentations qui vont être menées dans une vingtaine de départements, avec un comité de suivi, enfin un comité de chercheurs dont vous faites partie, Marie Durubella, pour justement donner aussi des idées peut-être au département et aux établissements pour essayer de travailler juste précisément sur cette question de mixité sociale. D'abord, elles vont consister en quoi ces expérimentations? Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu clair aujourd'hui?
Disons qu'elles vont différer selon les sites, hein, puisqu'il y a des sites où on va mettre en réseau un certain nombre d'établissements, y compris parfois des établissements privés, pour que les familles gardent une certaine latitude de choix, mais en même temps, en imposant aux divers établissements du même réseau une exigence de mixité sociale. Donc, les expérimentations sont différentes selon les sites. Elles sont suivies d'ailleurs à la fois par des personnes de l'enseignement, mais aussi, bien sûr, les politiques, les élus, qui connaissent très bien les territoires, et elles seront évaluées. Ça, c'est extrêmement important. Mais je pense qu'il faut revenir quand même sur la question que vous posiez au début, si je peux me permettre, à savoir, mais pourquoi mettons en avant cette exigence de mixité sociale, hein, c'est quand même la question essentielle, c'est pas comme ça de l'angélisme, voilà, on mélange tout le monde et tout va bien. Hein. Je crois que ce qu'a bien montré plusieurs études, notamment de la Cour des comptes récemment, c'est que quand il y a de la ségrégation sociale entre établissements, eh bien l'offre éducative elle-même va être inégale. Les enseignants, et on les comprend, vont fuir certains établissements quand le public est trop difficile. Donc les enseignants les plus expérimentés vont partir. Ça, c'est au détriment des élèves. De même, les camarades dont disposent les élèves se forment entre eux, il faut le rappeler, ne seront pas les mêmes. Ils seront moins acquis aux normes scolaires, ils seront moins disciplinés, ils seront moins convaincus qu'il faut travailler. Leurs ambitions ne seront pas les mêmes. Donc finalement, tout le milieu éducatif dans lequel évolue l'élève au jour le jour, quand il y a une ségrégation sociale, eh bien, il est très inégal d'un site à l'autre. Et ça, c'est pas normal dans une école qui se dit républicaine.
Alors, vous utilisez le terme de ségrégation sociale. Est-ce que pour vous, c'est l'inverse de ce que serait la mixité sociale, ou bien c'est une formule qui vous paraît plus pertinente pour le sujet que nous abordons ce soir, Marie Durubella?
Je n'en sais rien, je ne suis pas très à cheval sur ce genre de distinguo. Je pense que la mixité sociale, c'est d'avoir des publics représentatifs du bassin de population qui est là. Évidemment, pas forcément à l'échelle de la nation, parce qu'on sait bien que les petits parisiens, ce n'est pas les élèves du Châtillonnais dans la région où je suis. Donc ça, c'est ça, c'est l'idée de représentativité, l'idée de mélange. Et ça, à l'école obligatoire, je ne vois pas qu'on puisse défendre autre chose qu'un mélange. Quand on va évoluer dans la vie plus tard, les adultes, il n'y a pas dans notre pays, heureusement, des ghettos à 100%. On va être amené à côtoyer les autres si on ne les a jamais vus. Vous imaginez la société? C'est quand même un problème.
Pascal Balmont.
Oui, je partage pleinement ce que vient de dire Marie Durubella. J'ajouterais un point sur un autre registre. Elle a parfaitement dit ce qu'il fallait dire sur le registre scolaire. J'ajoute que sur un plan éducatif, la mixité sociale me paraît tout aussi, sociale et culturelle me paraît tout aussi importante et nécessaire, tout simplement parce qu'on ne fait pas grandir un enfant ou un jeune dans un vase clos. Et que la rencontre, l'altérité, sont vraiment des leviers de construction de la personne et de construction de la société. Donc, il y a un impératif scolaire de mixité, mais il y a aussi un impératif, on va dire, politique au sens large du mot politique.
Frédéric Rollet, vous êtes d'accord? Il y a ces deux niveaux d'exigence?
Oui, je crois que là-dessus, tout le monde est à peu près convaincu. Le tout est de mieux analyser.
C'est quand même faire porter aussi un rôle et une responsabilité à l'école qui est énorme quand on va aussi, en plus du terrain scolaire, sur le terrain politique. C'est-à-dire, voilà.
Oui, mais bon, on parle beaucoup du vivre ensemble, mais c'est vrai qu'on a intérêt pour les jeunes à ce qu'ils puissent se rencontrer dans le même cadre éducatif, confrontés à un certain nombre, y compris de normes culturelles, de pratiques. Je pense que ça les prépare à leur vie future, professionnelle, de citoyen, etc. En même temps, au-delà du discours incantatoire, je crois qu'on a souvent trop minimisé les causes et insuffisamment analyser les raisons qui font que certains parents évitent, y compris des parents de familles populaires, évitent certains établissements. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur, d'une part, les manques, et comment est-ce qu'on peut aussi convaincre que la performance, hein, puisqu'il faut utiliser ce terme-là, mais que la performance scolaire ne sera pas moindre parce qu'on sera dans une classe où il y aura des élèves de niveaux différents, puisqu'il y a une corrélation forte, hein, entre la catégorie professionnelle et des parents et le niveau scolaire.
À condition d'ailleurs, Marie Durubella, qu'au sein d'établissements qui mettent en œuvre, on va dire, une bonne mixité sociale, cette mixité, elle se retrouve également à l'intérieur des classes. Or, ça n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir une bonne mixité sociale d'un point de vue global de l'établissement, mais avec des classes, par exemple, de niveau qui peuvent aussi refléter des inégalités sociales.
Oui, absolument. On a plusieurs enquêtes ont montré que les écoles ou les établissements en général, elles-mêmes, créent de la ségrégation par les options, par le fait de regrouper les élèves redoublants, enfin les élèves en retard en tout cas, ou à l'inverse de créer des classes selon des options recherchées par les familles les plus instruites. Les établissements aussi le font, et ça renvoie à la conviction de la plupart des enseignants que c'est plus facile aussi qui n'est pas dénué de fondement, que c'est plus facile d'enseigner dans un groupe qui est relativement homogène, peut-être aussi parce que dans notre pays, on ne prépare pas les enseignants à gérer cette hétérogénéité qui, dans la plupart des pays, est considérée comme une condition d'exercice normale du métier.
Mais est-ce qu'on a la certitude, Marie Durubella, que le fait d'avoir une classe hétérogène, c'est mieux en termes de résultats scolaires que d'avoir une classe homogène ?
Alors, ce qu'on sait, ce qui est vraiment bien établi, c'est que mettre ensemble les élèves faibles, c'est une catastrophe pour eux. Parce que dans une classe faible, l'enseignant, très normalement, va avoir des attentes moins exigeantes, les contenus vont être moins couverts, les programmes seront moins couverts, les élèves eux-mêmes savent qu'ils sont faibles. Et donc, on a démontré, par exemple, que même leur niveau d'attention, qui en début d'année peut être assez comparable à celui d'élèves de classe de meilleur niveau, va se dégrader parce qu'ils ont compris qui ils étaient. Ils savent bien qui ils sont. Et donc, dans ces classes, vraiment, il y a une dynamique négative, si vous voulez, qui va s'enclencher. Et ces classes sont catastrophiques pour les faibles. Vous me direz, ah mais oui, mais l'effort. Eh bien, c'est vrai que si vous mettez ensemble des plus forts, ils vont avoir tendance à progresser un peu plus pour les mêmes raisons qui, cette fois, seront dans l'autre sens. Donc, quand vous créez une classe hétérogène, les forts vont souvent y perdre un tout petit peu en termes d'acquis et les faibles y gagner beaucoup. Si vous êtes ministre de l'Éducation nationale, ce que je ne suis pas, Dieu merci, eh bien, que vous voulez maximiser les acquis d'une classe d'âge, d'un niveau scolaire, vous allez jouer la carte de l'hétérogénéité parce que ce que vont gagner les plus faibles va être beaucoup plus important que le petit chouïa que vont perdre les plus forts. Et puis les plus forts, ils se rattraperont. Je pense qu'il faut avoir une logique d'hétérogénéité, au moins pendant la scolarité obligatoire. Après, on peut choisir, c'est une question politique, de faire des choix et de dire, ben voilà, nous on veut dégager une élite et à ce moment-là, on fera des classes de niveau, c'est ce qu'on fait dans une classe préparatoire, par exemple. Mais ça, c'est un choix politique. Mais au niveau de l'école obligatoire, l'école pour tous, je ne vois pas pourquoi on renoncerait à cette hétérogénéité qui va profiter à tout le monde, globalement, qui va maximiser le niveau d'une classe d'âge.
Pascal Balmant, vous, au sein de l'enseignement catholique, est-ce que c'est cette logique d'hétérogénéité que vous retenez ? Ou bien peut-être que chaque établissement, de manière, est libre de composer ses classes comme il le souhaite, mais il y a forcément une impulsion quand on chapeaute l'ensemble de ces établissements. C'est quoi votre approche à vous ?
Alors, mon approche à moi, à titre personnel, parce que comme vous l'avez dit à juste titre, ce qui nous caractérise, c'est l'autonomie et la responsabilité de chaque chef d'établissement avec les équipes qui l'animent. Donc, les diversités, là encore, la diversité prévaut. Non, ce que je voulais dire, c'est que la mixité sociale et scolaire dans un établissement et dans une classe, dans un groupe classe, suppose pour être féconde, pour être efficiente, que les pratiques éducatives et pédagogiques l'accompagnent. Donc tout ce qui relève des pédagogies différenciées, des pédagogies de la coopération, d'une pédagogie explicite, c'est-à-dire que il ne suffit pas de brasser des enfants ou des jeunes dans un établissement ou dans une classe, c'est une condition, mais elle n'est pas suffisante. Encore faut-il faire en sorte que chacun y trouve ce à quoi il a droit à l'école. Et ça suppose des pratiques ajustées.
Donc que les élèves, par exemple, les plus en difficulté aient des aides supplémentaires ou alors un rythme différent au sein même de la classe, comment ça peut se traduire ?
Ça peut passer par des formules extrêmement variables, des groupes de besoins, par exemple, tout ce qui relève effectivement de l'accompagnement, de la remédiation, dès lors qu'on se donne en équipe les moyens d'en tirer le meilleur parti possible.
Cette question de l'hétérogénéité ou de l'homogénéité, elle est vraiment au cœur finalement de notre réflexion ce soir, Frédéric Rollet, parce que ce qui est important, même si vous le disiez, il y a deux niveaux en fait d'enjeux pour la mixité sociale à l'école, c'est le parcours scolaire et c'est ensuite la place des citoyens dans la société. Mais pour le parcours scolaire, qu'est-ce que les enseignants ont tendance à privilégier, en particulier au SNES-FSU ?
Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute chez les enseignants que s'il y a un équilibre qui est respecté dans le cadre de la mixité sociale, elle bénéficie effectivement aux élèves défavorisés, hein, ce que rappelait Marie Durubella, sans désavantager globalement les autres. Ça, je crois que c'est bon. Et c'est nous, c'est un constat qu'on porte à partir de l'idée de l'éducabilité de tous et du fait qu'il faut à un moment qu'il y ait une forme de coopération entre les élèves et que tout le monde à un moment va en tirer profit. Ensuite, il y a la réalité. Et effectivement, quand on interroge beaucoup de professeurs, notamment en collège, puisque c'est en collège que les choses se passent. Hein, quand on regarde d'ailleurs le parcours scolaire d'un élève, il y a une espèce de zapping. C'est rare qu'ils fassent toute leur scolarité dans le privé, toute la scolarité dans... Il y en a justement que leurs parents mettent à certains moments dans le privé pour ensuite les remettre au lycée notamment. Dans le public. Donc le collège cristallise, on le sait, c'est les difficultés de pas mal d'élèves. J'entends ce que dit Marie Durubella sur les questions de formation. Alors il y a la formation des enseignants, mais il n'y a pas que cela. On sait aussi que parler de différenciation pédagogique, ça se construit au sein de la classe. Nous, on est persuadés que les inégalités, elles vont être combattues au sein même de la classe, que c'est pas tellement en externalisant les difficultés, en ajoutant des heures et des heures à des élèves qui sont déjà un peu éloignés de la culture scolaire qu'on va les y inciter. Donc, et là, là-dessus, je le regrette de dire que bon, nous ne disposons pas véritablement des conditions pour le faire.
Question avec une réponse sans doute extrêmement compliquée à fournir, mais je vous la pose quand même, Marie Durubella. Ça serait quoi le bon niveau d'hétérogénéité dans une classe en termes de mixité sociale ?
Oui, je ne répondrai pas en termes quantitatifs. Disons que le bon niveau, ça serait une hétérogénéité qui est bien vécue par les élèves. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Pour les élèves, ça peut être difficile à vivre, l'hétérogénéité. Par exemple, il y a eu des expériences, il y a déjà un certain temps, dans l'Académie de Bordeaux, je crois, on voyait des élèves de milieux très populaires qui avaient été transplantés, si on peut dire, dans des établissements chics. Eh bien, ils déclaraient souffrir de la part de leurs camarades plus aisés, de ce qu'on pouvait appeler... quand on est chercheur, hein, des procédés d'intimidation symbolique, c'est-à-dire moi je m'habille comme si je suis plus meilleur que toi, etc. Donc une bonne hétérogénéité, c'est une hétérogénéité qui est supportable. Il y a peut-être des niveaux, mais ça il faut essayer, vous savez, c'est tout les débats extrêmement glissants sur le seuil de tolérance, peut-être qu'effectivement mettre des enfants de milieu extrêmement démunis avec des élèves qui ont vraiment tout, peut-être que c'est difficile, mais en même temps, ça serait un beau pari, parce que ces gens-là vont quand même se croiser dans nos sociétés, et ça serait bien de leur apprendre. Je pense que la vocation éducative, hein, comme le disait Pascal Balmont, mais je suis sûre que Frédéric Rollet est d'accord aussi, la dimension éducative de l'hétérogénéité est aussi importante que sa dimension purement scolaire. Et d'ailleurs, les parents ne s'y trompent pas. Quand on leur demande ce qui fait qu'ils choisissent tel ou tel établissement, ils vont beaucoup évoquer cette idée de climat scolaire. Bon, ça peut être les violences, les incivilités, etc. Mais le climat, hein, avoir un climat qui est relativement apaisé, où les élèves se côtoient, ils sont différents, eh bien, ils ne se tapent pas dessus. Eh bien, ça, c'est bien. Et les parents le valorisent tout autant qu'un demi-point de plus à tel ou tel test de connaissance.
Encore un mot sur ces formes d'intimidation symbolique que vous évoquez à propos de ces élèves de milieux défavorisés qui peuvent se retrouver comme plongés dans un environnement dans lequel ils peuvent être mal à l'aise, voire souffrir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi exister dans l'autre sens ? C'est-à-dire, alors, vous allez me dire peut-être que ça n'existe pas vraiment, en tout cas c'est tellement minoritaire, mais des élèves de milieux là très favorisés qui se retrouvent dans des classes de très bas niveau, où là aussi on va dire qu'il y a une forte différence et peut-être un malaise à évoluer dans la classe.
Ça, c'est tout à fait possible. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, parallèlement à ces efforts ou ces politiques hein, visant à plus d'hétérogénéité au collège, parce qu'effectivement, c'est la cible qui est visée, il faut absolument essayer de limiter les écarts de performance dès le primaire. Parce que si les élèves arrivent en sixième déjà extrêmement inégaux, effectivement, un élève qui sait parfaitement lire et qui se trouve avec un élève qui a du mal à apprendre à lire, il peut se sentir dévalorisé. Donc, c'est pas la seule politique qu'il faut mener dans le milieu scolaire pour limiter les inégalités, il faut aussi, parallèlement et peut-être même encore plus, hein, resserrer les inégalités entre élèves dès les premiers niveaux d'enseignement.
Pascal Balmont, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais on évoquait cette expérimentation qui va être menée à la rentrée prochaine dans une vingtaine de départements. Est-ce qu'il y a des établissements de l'enseignement catholique qui vont y participer, par exemple à ces réseaux d'établissements, ce qu'on appelle, la sectorisation élargie? Est-ce qu'il y a des établissements qui sont prêts à y participer? De quelle manière?
Oui, 17 départements qui se lancent dans ce travail d'expérimentation. Nous y sommes associés, c'est-à-dire que nos responsables locaux, en lien avec les chefs d'établissement, ont répondu à l'invitation qui leur a été faite. Alors ensuite, comme le disait Marie Durubella il y a quelques minutes, les modalités de ce travail varient, et c'est bien, d'ailleurs c'est intéressant, singulièrement d'un département à l'autre, en fonction des choix qui sont faits, nos établissements, lorsqu'ils sont concernés, bien sûr, sont associés. Tout l'enjeu consiste...
Tout
l'enjeu consiste à, dans un, ce qu'on peut appeler un dialogue de gestion avec le rectorat, avec les élus, avec tous les partenaires concernés, tout l'enjeu consiste à définir la bonne manière d'intégrer nos établissements à ce travail, sans pour autant, et c'est là où je suis en désaccord avec Frédéric Rollet, mais sans pour autant les faire rentrer dans une logique administrative de carte scolaire. Mais je crois que en définissant des objectifs communs et en faisant confiance au sens des responsabilités des acteurs, il est parfaitement possible de nous associer à cet effort, que je trouve légitime, sans pour autant dénaturer qui nous sommes.
Bon, il y a beaucoup de bonne volonté du côté de l'enseignement privé, Frédéric Rollet.
Non, mais je crois que la première chose, c'est de convaincre la société qu'on a besoin d'un projet d'école qui soit un vrai projet démocratique, parce qu'on c'est nécessaire pour la société de demain. Après, ce que disait Marie Durubella est juste. Il s'agit pas de dire à un moment on construit une mixité qui pourrait être explosive, parce que c'est vrai que si on met côte à côte des enfants qui sont de mieux et qui ont des codes culturels extrêmement différents, ça peut aussi être contre-productif. On a vu aussi des expériences malheureuses d'enfants qu'on avait transportés, suppisant des collèges autres assez loin de chez eux, qui sont fatigués, puis qui sont d'une certaine façon complètement déracinés.
Il y a eu notamment l'expérience des internats d'excellence.
Il y a ce genre de choses. Bon, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est vraiment de faire à un moment que chaque parent puisse se dire dans n'importe quelle école et au collège ou lycée en France, mon enfant trouvera de quoi s'épanouir et apprendre, etc. Donc c'est la question aussi de la lutte contre les inégalités sociales et scolaires très tôt. Il y a eu récemment, c'était les propos de la directrice de l'enseignement scolaire, mais qui montrait que, y compris la scolarisation aux 2 ans, par exemple, qu'on a cherché à développer, ne touche pas forcément les publics qui étaient les plus ciblés. Or, on sait que les inégalités scolaires, elles se construisent très très tôt. Et effectivement, moi, je suis professeur en collège, si en 6e, vous avez des enfants qui arrivent qui non seulement savent déchiffrer, mais donnent sens à ce qu'ils lisent, et se retrouvent côte à côte avec des enfants qui sont déjà en difficulté, c'est extrêmement compliqué pour un enseignant de travailler.
Mais est-ce que la meilleure façon de lutter contre les inégalités scolaires, ça n'est pas de lutter contre les inégalités tout court, c'est-à-dire moins il y aura des inégalités dans la société française, moins l'école aura peut-être justement à assumer cette responsabilité.
Ça, je suis complètement d'accord avec vous, parce que malheureusement, je ne suis pas sûre que tout le monde se rencontre tout le monde un jour dans la société. Je trouve qu'il y a un cloisonnement de plus en plus important, que ce soit dans la façon, dans l'habitat, dans toute une série de, dans les loisirs, et que les inégalités se creusent, oui.
Comment est-ce que l'enseignement catholique se situe justement sur ces questions politiques? Parce que c'est vrai que finalement, on vous entend pas si souvent que ça dans les médias, en tout cas sur France Culture. Est-ce que justement au-delà,
je reviens quand vous voulez,
au-delà en tout cas du milieu scolaire, est-ce que vous pensez aussi, on va dire, votre mission sur un plan beaucoup plus large et plus politique, disons?
Tout à fait. Il y a quelques minutes, vous nous demandiez, et puis on n'a pas eu l'occasion de revenir sur votre question, si tout ceci n'aboutissait pas à faire porter sur l'école un poids excessif. Je crois pas. Enfin, les uns et les autres, si nous sommes des acteurs de l'école, c'est bien parce que nous sommes convaincus de sa mission, de son utilité et de sa grandeur. Pardon, pour les, je suis pas en train de vous faire un sermon, hein, bien qu'on peut entendre l'enseignement catholique, mais voilà, j'y crois profondément. L'école, alors, en même temps, il faut pas faire porter à l'école la responsabilité, à l'école toute seule, la responsabilité de tous les maux de la société et la responsabilité de tous les régler. Mais oui, elle a bien un rôle politique à jouer. Et par rapport à la question que vous posiez à l'instant, il me semble que l'un des enjeux de l'école, pour le coup, c'est bien de faire œuvre de pédagogie pour faire partager par l'ensemble d'une société, notamment des parents, cette idée selon laquelle la rencontre, l'altérité, le brassage sont féconds et ne sont pas pénalisants.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Pascal Balmant, secrétaire général de l'enseignement catholique. Marie Durubella, sociologue qui était en duplex des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Je remercie nos camarades de Dijonais. Et Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, qui appelle à une nouvelle mobilisation. Ce sera jeudi contre la réforme 19. Du collège. Voilà, mais ça sera dans une journée un petit peu plus large, on va dire. Voilà. La réforme du collège, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Voilà, merci à tous les trois. Merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Bruno Gagnère Fontanille. Demain, police, l'amour vache, ce sera la question à 18h20. Tout de suite, ping-pong. Mathilde et Martin, bonsoir.